journal Loïc Barrière. Les titres de cette édition, le 60e anniversaire du 17 octobre 1961, cette nuit-là, de nombreux Algériens qui manifestaient pacifiquement à Paris contre un couvre-feu qu'ils jugeaient discriminatoire ont été tués par la police, alors sous les ordres de Maurice Papon, certains ont été jetés dans la Seine. Des hommages aux victimes du massacre du 17 octobre ont eu lieu en Algérie et en France. Pour la première fois, un préfet de police de Paris a déposé une gerbe à la mémoire des victimes. Hier, le président Macron a parlé de crimes inexcusables. Plusieurs maires demandent qu'il dénonce un crime d'État. L'historienne Ludivine Bantigny nous dira dans quel contexte a eu lieu cette répression meurtrière du 17 octobre 1961 en pleine guerre d'Algérie. Avec la journaliste Maya Kadra, nous évoquerons le deuxième anniversaire de la révolution au Liban. Le 17 octobre 2019, des centaines de milliers de Libanais manifestaient contre la corruption de la classe politique. Enfin, la France a rendu hommage à Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie, tué par un terroriste islamiste il y a un an. Entretien avec Anouar Gbibesh, président du Rassemblement des musulmans de France. En Algérie, le président Tebboune s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la Révolution et des victimes du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Ce 60e anniversaire a été commémoré aussi en France. Et c'est une première pour un préfet de police de Paris. Didier Lallemand a déposé une gerbe de fleurs près de la Seine, 60 ans jour pour jour après cette répression meurtrière de la police française. Samedi, Emmanuel Macron avait lui aussi déposé une gerbe de fleurs sur le pont de Beson et il a déclaré dans un communiqué que les crimes commis cette nuit du 17 octobre 1961 sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. De nombreuses villes françaises ont rendu hommage aux victimes de cette répression meurtrière, notamment les villes de Saint-Ouen, Villejuif ou encore Colombes. Un geste accompli aussi par le recteur de la mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz. Plusieurs maires ont par ailleurs appelé Emmanuel Macron à dénoncer un crime d'État commis le 17 octobre 1961. Un appel signé en particulier par les maires de Stain, Alonne, Montreuil et Saint-Denis. Une marche pour commémorer cet anniversaire a eu lieu ce dimanche à Paris. Coup de projecteur sur les événements du 17 octobre 1961 avec l'historienne Ludivine Bantigny.
Alors, il y a eu une manifestation organisée par le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, en raison de la répression que subissait la population algérienne en métropole, donc au cœur de cette guerre d'Algérie, de cette guerre d'indépendance algérienne qui n'en finissait pas. C'était vraiment une époque de tension très forte. Une époque notamment où il y avait des conflits assez importants entre la police parisienne et les militants algériens, notamment les militants du FLN. Il y avait des morts de part et d'autre, des assassinats de policiers, des assassinats de militants indépendantistes, des pratiques de torture de la part de la police à l'égard de ces militants. Et dès lors, en fait, le gouvernement a pris la décision d'un couvre-feu qui touche uniquement cette population algérienne. Donc beaucoup considèrent que c'est une forme de discrimination raciste. L'interdiction après une certaine heure, 19h, de sortir dans les rues quand on est algérien. Et donc le FLN avait choisi d'organiser cette manifestation à propos de laquelle il insistait beaucoup sur le fait qu'elle devait être pacifique, que les gens devaient venir absolument sans armes, quelles qu'elles soient, même ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des armes par destination, voilà, pour protester justement contre ce couvre-feu au nom de la liberté et au nom de l'égalité républicaine.
Et cette manifestation a été violemment réprimée puisque des manifestants ont même été jetés dans la Seine.
Absolument. En fait, le préfet de police de Paris à cette époque, qui voilà, est évidemment connu pour sa dureté et son passé durant l'occupation, hein, Maurice Papon, a donné carte blanche à ces hommes, à la police parisienne, en gros aussi en guise de représailles, en guise de revanche, hein, par rapport aux tensions que j'évoquais précédemment. Et donc, en gros, les forces de l'ordre ont senti qu'elles avaient la liberté de cogner, la liberté aussi de tirer, de réprimer d'une manière extrêmement brutale et violente. Il y a eu aussi ici l'assentiment des plus hautes autorités françaises, hein, au sein du gouvernement. Il est clair que le Premier ministre de l'époque, hein, Michel Debré, voilà, donnait aussi validation à ce préfet de police et dès lors aux forces de l'ordre, qui se sont en effet déchaînées sous les différents cortèges, puisque en fait c'est pas une manifestation unique, mais plusieurs cortèges qui viennent de différentes, notamment de différentes villes de la banlieue proche, hein, et des banlieues donc populaires, qui donc cortèges défilent sur certains grands boulevards, qui défilent aussi du côté du boulevard Saint-Michel, qui défilent pour certains aussi du côté des Champs-Élysées, de la Concorde. Et donc c'est une manifestation qui va être très gravement réprimée, avec des bastonnades, vraiment. On frappe les manifestants, on les frappe parfois à mort, avec ce que la police appelle les bidules, hein, c'est des espèces de grandes matraques, hein, des bâtons extrêmement dangereux. Il va y avoir aussi des tirs à balles réelles, hein, qui vont atteindre certains manifestants, et des personnes qui vont être jetées dans la Seine et qui vont s'y noyer, pour la plupart après avoir elles-mêmes subi des coups. Beaucoup vont être aussi envoyés en détention. Quelques jours plus tard, on va renvoyer des Algériens en Algérie avec des expulsions assez nombreuses. Donc il y a toujours et il y aura toujours en fait une discussion entre historiens, historiennes, sur le nombre de victimes de cette répression. On considère qu'il y a eu au moins 200 morts, peut-être entre 200 et 300 morts, si on considère vraiment l'ensemble du mois d'octobre, non seulement avec les jours qui avaient précédé, dont je parlais de certains assassinats, certains meurtres, le 17 octobre lui-même, certains sont morts ensuite des suites de leurs blessures, et d'autres sont morts dans les jours qui ont suivi, hein, cette répression sanglante.
Alors cette répression sanglante a été cachée, occultée par les autorités françaises, mais aussi par la presse. Il y a eu très peu de journaux qui ont parlé de cette répression.
Oui, c'est vrai, il y avait une espèce de tabou. D'ailleurs, on peut penser au fait que même du côté du Parti communiste, le journal L'Humanité, d'ailleurs, qui avait son siège sur les grands boulevards, a fermé en fait son rideau de fer en voyant la manifestation, hein, de peur d'être eux-mêmes pris à partie. Et donc il y a, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de blackout sur cette manifestation. La presse en a parlé, mais ce dont elle n'a pas rendu compte, c'est de la répression. Elle a parlé, la presse, de la manifestation, mais souvent pour inverser complètement la charge de la preuve. C'est-à-dire que là, les victimes sont devenues des coupables. Il y a une partie de la presse, notamment la presse de droite, hein, mais même une presse assez centriste, hein, qui tend à expliquer que c'était vraiment des hordes d'Algériens qui avaient ainsi envahi les rues de la capitale, qu'ils étaient violents, qu'ils faisaient peur, etc. Donc ce qui est absolument faux, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une manifestation très pacifique. Il y avait d'ailleurs beaucoup de femmes, il y avait aussi des enfants. Dans la panique, certains enfants ont comme ça perdu leurs parents. Alors, beaucoup, ils les ont retrouvés, mais je veux dire, il y avait vraiment, c'était une manifestation qui était très pacifique, et la presse a complètement déformé cette manifestation en considérant que la violence était du côté des manifestants. Et il y a eu quand même des protestations, elles ont été très minoritaires, hein. Par exemple, du côté du PSU, hein, le Parti Socialiste Unifié, qui a organisé ensuite un rassemblement de protestation. Mais en fait, comme toutes les manifestations de l'époque pendant la guerre d'Algérie, ce rassemblement a été interdit. Et donc, il a été très très rapidement dispersé, là aussi, par la matraque.
Et l'historienne Ludivine Bantigny. Il y a 2 ans, un mouvement de protestation éclatait au Liban pour dénoncer la corruption des dirigeants politiques. On écoute la journaliste Maya Kadra, elle nous rappelle la genèse de cette révolution.
Ce mouvement de la société civile est issu d'un sentiment de frustration chez les peuples libanais depuis la fin de la guerre, parce que depuis la fin de la guerre, il y a eu un système politique qui a sanctuarisé en quelque sorte la corruption, aussi bien que les prévarications de tous les hommes politiques de la classe politique qui a gouverné entre 90 et qui gouverne toujours jusqu'à aujourd'hui. Et l'élément déclencheur de ces grandes mobilisations historiques, je dirais, et les premières en leur genre depuis mars 2005, c'est-à-dire la révolution des cèdres, l'élément déclencheur de ces mobilisations, c'était une taxe WhatsApp. Et donc au Liban, où il y a une cherté de vie indécente, je dirais, avec un salaire moyen qui est médiocre, le gouvernement et le ministre Choukair, qui était chargé de la télécommunication, a voulu imposer une taxe sur les appels gratuits qui passent par l'application WhatsApp. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'évidemment, on n'a pas manifesté contre une taxe, on a manifesté contre une classe politique corrompue, on a manifesté aussi contre un système bancaire qui a longtemps protégé les magouilles de la classe politique, on a manifesté contre la cherté de vie, on a manifesté aussi, et ça c'était une aile plus politique dans ces contestations qui sont sociales. À la base, on a manifesté, il y a beaucoup de Libanais qui ont manifesté pour la souveraineté de l'État. Parce qu'au Liban, on a une armée dont on critique parfois l'impuissance. On a des agendas, je dirais, régionaux extérieurs à la souveraineté nationale libanaise qui sont imposés sur le peuple libanais. À ne pas oublier que malgré les résolutions internationales, dont la résolution 1559, qui édicte le désarmement de toutes les milices, il y a toujours des milices armées au Liban, et à la tête de ces milices armées, évidemment le Hezbollah qui a un projet extraterritorial. Donc tout ça a mené à ce qu'on a pu voir et en témoigner le 17 octobre 2019, et j'étais d'ailleurs à Beyrouth à ce moment-là, et j'ai vu qu'il y avait un ras-le-bol total de la part du peuple, et que ce qui était nouveau aussi, c'est que le peuple n'avait plus peur. Et vraiment, je pourrais comparer ça à mars 2005, après l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, l'attentat à la voiture piégé, on a eu une déferlante populaire à la place des martyrs.
Que reste-t-il de cette révolution du 17 octobre 2019 ? Est-ce qu'il peut y avoir un débouché politique à cette révolution ?
Il y a des élections législatives en mars prochain, donc c'est là vraiment, c'est la première occasion pour les révolutionnaires ou les contestataires et les nouveaux partis issus de la société civile. Ils sont pas nombreux, mais c'est des mouvements qui commencent à avoir une voix dans le de la politique et même un programme électoral et une vision pour le Liban. On pourrait miser sur les élections législatives pour qu'il y ait de nouveaux partis ou bien de nouveaux représentants du peuple issu de la révolution du 17 octobre 2019. Cependant, et ma grande crainte est la suivante, c'est que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul discours unifié, il n'y a pas de leadership dans la contestation populaire, justement parce que le Liban est un pays qui est pris en otage par des idéologies, est pris en otage par des clivages politiques. Donc au moment où le peuple il peut s'entendre et il peut être unis dans la douleur, parce que plus de 50% du peuple libanais vit sous le seuil de la pauvreté, mais il reste des clivages politiques qui sont très très enracinés dans le tissu social. C'est tellement tentaculaire au Liban que ça empêche dans la rue révolutionnaire l'émergence d'un discours unificateur, d'un discours qui rassemble plusieurs tendances. Donc même au sein de cette rue révolutionnaire, nous avons plusieurs tendances politiques. Après, le Liban est un pays démocratique, et j'espère que malgré ces différences idéologiques dans la rue révolutionnaire, ces mouvements d'opposition quand même réussiront à percer, réussiront à remporter quelques sièges au Parlement. D'autant plus qu'il y a eu ce séisme du 4 août, cette grande explosion au port de Beyrouth, et ça, ça devrait vraiment ouvrir les yeux de beaucoup de révolutionnaires sur les priorités dans les revendications. Ils doivent se poser les questions suivantes. Qui bloque les réformes au Liban? Qui bloque le processus de la justice? Et qui est en train actuellement de terroriser le peuple libanais avec les armes, avec aussi des projets extrémistes et reliés et rattachés à l'étranger? Donc ça, ça devrait être un vecteur directeur. Et actuellement, c'est le vecteur directeur qui rassemble beaucoup de Libanais.
La journaliste Maya Kadra, elle a coordonné le numéro spécial consacré au Liban de la revue politique et parlementaire. La guerre au Yémen, la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite annonce avoir tué plus de 165 rebelles houthis dans de nouveaux bombardements contre la ville de Marib. Quatre migrants qui se trouvaient à bord d'une embarcation se sont noyés près des côtes algériennes. 13 autres ont été interceptés par les gardes-côtes, c'est ce qu'a annoncé le ministère algérien de la Défense. Enfin, la France a rendu hommage samedi à Samuel Paty, cet enseignant de Conflans-Sainte-Honorine, assassiné il y a un an par un terroriste islamiste parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet. Interview d'Anouar Gbibesh, le président du Rassemblement des musulmans de France.
Globalement, une année après cet assassinat abject, l'émotion est toujours aussi forte, et notamment au sein de la communauté musulmane de France. Tout le monde n'arrive toujours pas à comprendre comment dans la France du 21e siècle, il y a un professeur qui est décapité devant son lycée, devant son collège, alors qu'il était juste en train de faire son boulot, d'assumer son devoir de transmission et d'éducation envers les enfants et les collégiens et les lycéens qui étaient devant lui. D'autant plus que cet acte abject a été commis prétendument au nom de la religion musulmane, au nom de la protection de l'honneur du prophète de l'islam. Or, le prophète de l'islam et les enseignements qu'il nous a laissés sont à des années-lumière de ces actes de barbarie et ces actes de sauvagerie qui ne peuvent se réclamer d'aucune religion ni d'aucune morale.
Anouar Gbibesh, président du Rassemblement des musulmans de France, ancien président du Conseil français du culte musulman, il répondait à François-Xavier de Calonne. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.